Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, digne 99.3. Aujourd'hui, eh bien, j'ai trois invités. Bienvenue, donc, c'est Jeanne Malve que je reçois aujourd'hui. Donc, trois membres de l'association, la fédération Jeanne Malve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Il y a Annie Pegolotti, bonjour. Donc, Annie Pegolotti, présidente de Jeanne Malve.
Bonjour.
Il y a Claude Ranchon, vice-présidente.
Bonjour.
Et puis Pierre Sommerens, membre du conseil d'administration et bénévole.
Bonjour.
Alors Jeanne Malve, ça fait plusieurs fois qu'on vous invite. Bien sûr, on sait vraiment maintenant peut-être vos missions de formation, d'accompagnement pour les personnes en deuil. Si vous voulez en redire quelques mots.
Voilà, bonjour. Donc JALMAV, c'est une association de soins palliatifs qui est reliée à la Fédération nationale et qui donc s'occupe à la fois de faire des accompagnements de personnes très malades en fin de vie, de leur entourage, de désendeuiller. Nous recevons aussi lors des permanences tous les mois, le quatrième mardi du mois au Centre des Michel, les personnes qui désirent avoir des renseignements sur la législation de fin de vie. Et deuxièmement, nous faisons notre possible pour faire connaître toute cette législation. Donc nous avons un devoir d'information et ainsi que ce que sont les soins palliatifs. Voilà.
Alors, on va parler d'un événement, enfin, une journée particulière, le 21 novembre, avec la projection d'un film. C'est vous qui organisez.
C'est le 21 novembre à 18h15. Le film en question sera Plus que jamais, qui est un film qui va sortir là maintenant. C'est un film qui est tout récent et qui évoque le parcours d'une femme qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Et puis elle va au Canada, elle va se ressourcer, il y a des problèmes relationnels avec son mari, en fait. Le film est intéressant parce qu'il nous sert d'introduction à une réflexion et un débat qu'on pourrait avoir ensemble sur la fin de vie. Ce que ça implique au niveau psychologique, au niveau du couple, les problèmes que cela pose. Et on pourra enchaîner sur le dispositif législatif qui existe en France pour encadrer un peu, je dirais, ce problème de la fin de vie. Et dans ce cadre-là, il faudra qu'on parle et qu'on débatte de la loi que nous avons en France, qui est la loi Claeys-Leonetti, qui est assez mal connue. On parle beaucoup aujourd'hui d'euthanasie, de fin de vie, il y a beaucoup de débats, il pourrait y avoir des propositions de loi. Mais il faut savoir qu'il y a en France déjà un arsenal législatif qui est assez fourni et qui permet d'une part d'éviter aux malades, aux personnes en fin de vie, une obstination médicale déraisonnable qui normalement doit être respectée par le corps médical, qui est donc obligé de respecter la décision du patient et qui prévoit en fin de vie. Si la douleur, souvent associée à la maladie en fin de vie, devient ingérable, le recours à la sédation, alors ça peut être la sédation intermittente, de façon à permettre au patient d'avoir une fin de vie paisible, mais qui lui permet de prendre congé des siens, d'avoir un environnement plus apaisé, où la souffrance est évacuée, mais où elle reste consciente. Et lorsque la fin de vie est imminente, on peut avoir recours à la sédation continue ou qui n'est pas une euthanasie, mais qui permet, je dirais, aux malades de partir en douceur et sans qu'il y ait une action, je dirais, d'ôter la vie. Donc on laisse faire un peu la nature. Et c'est une loi qui permet d'adresser déjà beaucoup des problèmes liés aux conditions du patient dans la fin de vie, sans être agressive. Donc c'est un arsenal législatif très intéressant. Et le problème avec cette loi, c'est que d'une part, elle est mal connue, et d'autre part, elle est mal appliquée, dans le sens où elle induit évidemment une relation avec toute la problématique des soins palliatifs. Et en France, on sait que si la législation est bien faite, on a un problème de moyens. Dans beaucoup de régions, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de campagnes, on a un problème de moyens pour mettre en place des services de soins palliatifs. On pourra en parler tout à l'heure avec Claude. Et dans ce cadre-là également, il y a un élément intéressant qui est les directives anticipées. Donc là également, c'est mal connu. Et nous, à Jeanne Malve, on essaye de promouvoir un peu ce que les personnes pensent à laisser leur directive anticipée. Donc elles donnent le droit de dire à l'avance sa volonté sur les conditions de poursuite, de limitation, d'arrêt ou de refus de traitement ou d'actes médicaux pour le cas où la personne serait un jour dans l'impossibilité de faire connaître sa volonté. Et donc si on laisse ces directives anticipées, on peut les laisser à n'importe quel âge, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, hein. C'est pas seulement la maladie, mais ça évite les débats, les problèmes familiaux immenses lorsqu'il y a une personne qui n'est plus consciente, dont l'issue au niveau santé est incertaine. Ça évite ces débats interminables entre différents membres de la famille qui peuvent même finalement échoir devant une cour de justice, alors que la volonté de la première personne concernée n'est plus consultable. Donc c'est important de faire ces directives anticipées, et ce n'est pas très compliqué, hein. Il suffit de... c'est un format libre, donc il suffit de mentionner la personne de confiance que l'on peut désigner pour exprimer sa volonté si on n'est pas en état de le faire. Indiquer si on souhaite éviter une obstination médicale déraisonnable, hein, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Indiquer qu'on veut privilégier les traitements visant à soulager la douleur et les souffrances. Ou à l'inverse, des personnes peuvent dire non, il faut que la science médicale mette tout en œuvre pour prolonger ma vie, quelles que soient les conséquences. C'est également une possibilité. On peut demander à terminer sa vie à son domicile plutôt qu'à l'hôpital. À être mis en relation avec un guide spirituel, même si la personne est inconsciente, elle peut avoir indiqué à l'avance qu'elle souhaite être mise en relation, ou qu'un prêtre vienne la visiter, ou un autre représentant d'une autre religion. Important aussi, on peut autoriser ou refuser le don d'organes dans ces directives, indiquer que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas certains traitements en relation avec une maladie grave. Enfin, vous voyez, c'est très libre, on peut dire beaucoup de choses là-dedans, et ça évite encore une fois les problèmes de savoir ce qu'il faut faire lorsque la personne n'est plus en état d'indiquer sa volonté.
Pour ces directives, il faut qu'après ce soit fait devant un notaire ou
Non, alors c'est tout ce qu'il faut, les conditions, c'est uniquement, il faut avoir 18 ans, hein, donc majeur, faire un document manuscrit ou dactylographié, daté, signé, avec indication du nom, du prénom, de la date, du lieu de naissance, et éventuellement, c'est à conseiller, désigner une personne de confiance, ça peut être son conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être un proche, ça peut être son médecin traitant. Alors, on garde un original de ces directives dans ses affaires personnelles, là où les proches iront voir en cas de... Donc, si la personne est inconsciente, savoir, tiens, où sont ses papiers. Et on peut en confier un exemplaire à son médecin et à la personne de confiance, par exemple.
Est-ce qu'il existe des choses pré-remplies, enfin, où il y a juste à cocher?
Oui, on trouve sur Internet, il y a plusieurs formules. On peut même avoir, effectivement, des formulaires avec des petites cases à cocher. On peut trouver ça très facilement sur Internet. Nous en avons, à Jalmalf, plusieurs exemplaires qui viennent d'associations différentes qui se sont penchées sur ce problème. Voilà.
Merci. Vous allez revenir sur les soins palliatifs. Vous faites partie de l'équipe de soins palliatifs?
Non, on travaille avec eux, mais on ne fait pas partie de l'équipe de soins palliatifs, mais on intervient auprès de personnes qui sont en fin de vie. Les soins palliatifs, ce sont des équipes de soins palliatifs, il y en a une à l'hôpital de Digne, entre autres, qui prennent en charge le patient en fin de vie dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, bien entendu, le soulagement de la souffrance, mais il y a aussi une prise en compte du confort du malade, un accompagnement personnalisé. On essaye de faire en sorte que le malade soit au mieux dans ce qui lui reste à vivre, qu'il soit entouré avec beaucoup de bienveillance. Et ce que peuvent dire les personnels qui travaillent en soins palliatifs bien souvent, c'est qu'alors qu'ils reçoivent des personnes qui sont en demande de mourir, qui n'en peuvent plus, qui veulent mourir, au bout de quelques jours où ils sont là, où ils sont pris en charge, où je veux dire où ils sont coucounés un petit peu, hein, vraiment, où on fait très attention à eux et à leur confort, cette demande de mort disparaît. Donc c'est quelque chose de très important. Le problème que l'on rencontre particulièrement ici et dans bien d'autres territoires, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel qui sont dans ces équipes pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui, normalement, devraient pouvoir bénéficier de ces soins palliatifs. Donc il y a vraiment un problème de disponibilité du personnel et de structures qui ne sont pas assez solides pour répondre à toutes les demandes.
Bien.
Actuellement, sur l'hôpital de Digne, ils y arrivent beaucoup. Donc, c'est une équipe de coordination qui va pas aller faire les soins. Ils travaillent avec le médecin traitant, les infirmiers libéraux, les autres personnels autour de la personne. Et donc, eux, ils accompagnent. Donc, à la fin du film, ils viendront présenter exactement ce qu'ils font. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, ben, il y a parfois des personnes qui restent longtemps en soins palliatifs. Parce que donc, à la fois, il y a les structures, les lits. Donc, à Digne, on n'a pas de vraie unité de soins palliatifs. Il s'en est ouvert une sur Manos. De Lilly, c'est déjà ça. Sinon, il faut aller dans le 05 à Aix ou à Marseille. Donc, déjà, on a quelque chose de plus proche. Sinon, dans la définition des soins palliatifs, je veux dire, ça peut être mis en place dès l'annonce d'un diagnostic grave, c'est-à-dire en cas de maladie très grave. On sait que le traitement n'est plus efficace. Traitement médical. Donc, il y en a, bien sûr, pour calmer la douleur, tout ça, mais on sait que la personne, je veux dire, a une maladie très, très grave. Mais on a vu des personnes qui restent 5 ans en soins palliatifs, suivies par l'équipe. Donc, avec, bien sûr, au début, des prises en charge plus lourdes, puis après, des prises en charge beaucoup plus légères, et puis, bon, c'est selon l'état de la personne. Donc, l'équipe va visiter, soit dans les services, soit à domicile, et met en place tout ce qu'il faut, je veux dire, l'accompagnement. L'intérêt, c'est de permettre, justement, la fin de vie à domicile. Donc, annonce du diagnostic, on ne peut plus guérir, mais on prend soin de vous. Et ça peut durer 5 ans, ça peut durer longtemps. Donc, soins palliatifs, ce n'est pas forcément synonyme de mort imminente. Souvent, il y a cette dénotation, donc on ne veut pas prononcer le nom soins palliatifs. C'est une prise en charge globale qui comporte le respect de la personne et surtout traiter la douleur. Et quand la douleur cède, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un moment de vie beaucoup plus agréable qui s'ouvre.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ça? Donc, il y aura une équipe de soins palliatifs à l'issue de la projection du film Plus que jamais, qu'on pourra voir donc lundi 21 novembre à 18h15, c'est au Ciné-Étoile.
Oui.
Et puis, il y aura les membres de l'équipe de Jalmalve aussi pour répondre aux questions.
Voilà, donc on répondra effectivement aux questions de la salle, qu'on espère assez nombreuses, pour tout ce qui concerne effectivement les soins palliatifs, mais aussi tout le dispositif de la loi Léonie Ticlès, de façon, comme l'a indiqué Pierre, à mieux le faire connaître. Et puis, on mettra en place aussi à l'entrée du cinéma un stand de Jalmalve avec toutes les actions qu'on entreprend dans le secteur.
Et on aura préparé quelques petites fiches qui permettront de formaliser ces directives anticipées si on le souhaite. Voilà.
Parce que les soins palliatifs donc appliquent la loi Leonetti.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Effectivement, ils sont tenus comme tout secteur médical d'appliquer les lois françaises, et la loi Leonetti-Claes en fait partie. Donc les soins palliatifs sont sur la loi Leonetti-Claes.
Donc il y a à la fois ne pas s'obstiner, puis comme nous a dit le professeur Cayol de notre présidence, oui, il faut s'acharner un peu, mais il ne faut pas s'obstiner, bien faire la différence entre les deux. C'est pour ça, ils anticipent, alors c'est vrai que ça peut paraître, parce qu'ils sont pas sur place tout le temps. Nous, quand Jalmalve a été, pour faire un petit peu d'histoire, créée en 93, donc la loi n'était pas bien sûr appliquée comme ça, et c'est vrai que c'était une équipe de soins palliatifs à domicile qui dépendait du service de soins infirmiers pour personnes âgées de Multalpes qui était créée à ce moment-là, dont la responsable, et puis on a de très bons rapports aussi avec toutes les infirmières qui en ont fait partie, ils ont gardé l'esprit soins palliatifs dans ce service, mais je veux dire, c'était les infirmières du service qui venaient à domicile faire les soins, ce serait l'idéal. Bon, là, c'est une équipe de coordination, donc ils ne peuvent pas être là tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils font des prescriptions anticipées. Voilà.
Je crois qu'effectivement, ce qu'on constate parfois, c'est que c'est compliqué pour la famille qui se trouve confrontée à ces situations-là d'entendre que l'on parle de soins palliatifs, d'entendre que l'on parle éventuellement de sédation, mais qu'effectivement, comme le dit Annie, il faut bien anticiper. Et d'une certaine façon, je pense que le personnel médical essaye aussi de préparer la famille à une éventualité. Mais c'est forcément mal reçu à ce moment-là, d'autant que la vie peut continuer encore pendant des années et que c'est compliqué de faire le rapport. Et pourtant, ils doivent bien être dans l'anticipation, préparer les choses pour le cas où, de façon à ce que ça ne soit pas fait dans la précipitation au dernier moment.
C'est important également de dire que la notion de soins palliatifs, ce n'est pas uniquement des actes médicaux, des produits pharmaceutiques. C'est tout un encadrement qui vise à mettre la personne dans la situation la plus confortable possible. Et là où il n'est pas toujours possible d'assurer un accompagnement à domicile lorsque la personne doit être hospitalisée, une des choses que l'on constate parfois, c'est que les services hospitaliers consacrent des lits aux soins palliatifs, mais ne mettent pas en place un service dédié aux soins palliatifs. Donc il y a une différence. Et effectivement, lorsque il y a des lits comme ça, un peu plic-ploc dans l'hôpital, qui sont soins palliatifs, ou étiquetés comme tels, ben, la qualité de l'accompagnement en dehors de tout ce qui est strictement médical, pharmaceutique, ben, s'en ressent. Oui. Tandis que lorsqu'on a un service de soins palliatifs où plusieurs personnes sont confrontées un peu au même problème, peuvent échanger entre elles, où il y a des psychologues, où il y a des kinés qui passent, où il y a des volontaires Jalmalf aussi, des bénévoles qui passent, et où la famille peut discuter avec le patient, avec d'autres patients. Il y a un climat qui se crée, qui est beaucoup plus serein, et l'idée des soins palliatifs, c'est ça aussi.
Tout à fait. On peut aller sur Internet et voir des reportages. Il y a des maisons très connues comme Jeanne Garnier à Paris, comme la maison avec le docteur Piana, la Piana, à Gardanne, qui ont fait la démonstration de tout l'amour qui peut se trouver dans cette période-là de fin de vie. Voilà. Alors, il y a le soin palliatif, il n'y a plus d'espoir de guérison. Et puis après, il y a le soin palliatif terminal, quand vraiment on sent que la mort approche et qu'on va faire tout, le maximum pour que la personne ne ressente pas de douleur. Pour parler un petit peu de Jalmav, l'année prochaine, en 2023, nous avons 30 ans. Donc nous essaierons d'organiser un événement autour de ça. 30 ans à Digne, et je veux dire, c'est comme la loi. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jalmav, et jusqu'à la mort, accompagner la vie. Alors, déjà, le mot mort fait peur, et donc dans nos actions, il y a aussi démystifier, remettre un petit peu la mort, qui est quelque chose dont on sait que c'est inéluctable, en espérant que ce soit le plus tard possible. Et le mot vie, et nous, on dit toujours que dans le sigle, c'est le V de vie qui est le plus important. Garder la meilleure qualité possible de vie jusqu'au bout.
Eh bien, voilà une belle explication. Merci à tous les trois. Et donc, rendez-vous lundi 21 novembre à 18h15 au Ciné-Étoile pour la projection du film Plus que jamais, qui évoque donc le parcours d'une femme qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Donc, un film suivi d'un débat sur la fin de vie et les dispositifs de la loi Claeys. C'est comme ça qu'on prononce, Leonetti. Merci. Puis je rappelle que ce film aussi est le dernier film tourné par ce bel acteur disparu brutalement, qui s'appelle Gaspard Ulliel. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.